Génération Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Bonsoir et bienvenue dans la deuxième heure de Génération Prestart. Alors la première heure c'était avec Vincent et Clotilde et maintenant on est parti pour Try Again, une heure de rétro sur un jeu formidable ce soir, formidable. Je vous donne Mario Tennis sur Nintendo 64 par Nelly.
Ouais.
Bonsoir Nelly.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir à toutes et à tous, ce soir c'est Roland Garros. Non c'était...
Non,
ah si, pourquoi pas,
Oh, ouais, hein. Ça correspond au thème.
Bah, salut Elie, tiens bonjour.
Salut à tous.
C'est vrai, je fais pas les choses dans l'ordre, salut Lionel aussi pour présenter tout le monde
avec
moi ce soir dans le studio. J'aimerais faire un peu de pub pour commencer, pour notre forum comme d'habitude, pour notre page Facebook, excusez-moi, comme d'habitude, et surtout pour le Stunfest qui se rapproche de semaine en semaine, qui aura lieu du 29 avril au 1er mai à Rennes. Une compétition sur plus de 2000 mètres carrés avec plein de jeux de baston, avec des qualifications pour le Togeki qui est un des le plus gros tournoi mondial de jeux de baston au Japon, notamment, avec pas mal de jeux libres sur plus de 2000 mètres carrés. C'est vraiment un week-end de folie. Nous, si on peut y aller, enfin, moi je sais que j'irai déjà, pas forcément tout le temps. Donc voilà, j'invite nos auditeurs à aller voir ce qu'ils font parce que moi je trouve que c'est très 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 bien. Ils font du rétro comme du moderne et je trouve ça super. Donc je voulais faire un petit peu de pub pour eux.
Ouais, faut pas hésiter.
En attendant, on va s'écouter une première musique qui est en fait un gros montage de ce qu'on a au début du jeu.
J'ai fait ce que j'ai pu.
Voilà, avec l'opening, le thème de Mario 64, Let's All Play, l'entrance, le Verse System. Et après, je donnerai la parole à qui ? À Ellie pour les métiers de Mario, c'est ça ?
Voilà, exactement. Dans l'Insert Coin, je vous en parlerai en détail.
Bientôt, Mario va bosser.
M57 Radio.
Try again.
C'était bien funky,
c'est
musique.
C'est festif, hein.
Et ça a été composé, si je ne m'abuse, hein, par Sakuraba Motoi. Toutes les musiques du jeu, ça date de cette personne-là.
Écoute, on te croit. Ah, y a pas de souci.
Ouais. En tout cas, c'était vraiment bien funky. Et voilà. Ellie, parle-nous des métiers de Mario. Fais-nous bosser, Mario.
Alors, Mario Boss. Parce que Mario Bros. Alors effectivement, il a connu vraiment durant sa longue carrière, qui n'est d'ailleurs toujours pas finie, il n'a pas le droit à la retraite, il a connu beaucoup de métiers, tous très différents, que ce soit dans le sport ou dans diverses activités, je vais vous détailler ça. Donc en 1981, dans le premier Mario, il est officiellement charpentier. Ensuite, on le retrouve comme méchant gardien de zoo dans Donkey Kong. Et dans Donkey Kong Junior, en fait,
est-ce qu'il avait des fléchettes tranquillisantes.
Non.
Garogori.
Il s'appelait Jumpman, mais en fait, ils n'ont pas eu les droits sur le nom, ils ont dû changer après. Alors, on le retrouve comme ouvrier dans un cimetière, Dans une cimenterie, pardon.
Dans une cimenterie,
excusez-moi.
Pas dans un cimetière.
Excusez-moi.
Il y a des traduire directement de l'anglais, je crois que cemetery et.
Non, j'ai mal lu.
Mario Nécrophile.
Ouais, c'est dans Mario Cement Factory. C'est une Game & Watch en 1983. Parce que dans un cimetière, ça fait tout de suite un petit peu moins.
Vas-y, continue.
Un petit peu plus Luigi Mansion.
Du CV de Mario, là, de 12 ans.
Il était soldat en 1983, encore sur Game & Watch.
Soldat ?
Ouais,
oh, c'est marrant.
De
ça.
Mario's Bomb Away.
Et il devait faire quoi ?
Il faut sauver le soldat Mario.
Ouais, écoute.
Se battre.
J'ai pas joué au jeu, je t'avouerai.
Ouais. Comment tu dis
creuser des tranchées.
Comment tu dis qu'il s'appelle ?
Game & Watch, c'est donc Mario's Bombs Away.
Mario Bombs Away.
Okay, voilà. Je vais regarder si je trouve quelque chose.
Et ce n'est qu'en 1983 qu'on le retrouve en tant que plombier dans Mario Bros. Avec
parce
son frère Luigi.
Ah,
pourquoi Mario Bros.
Oh là, c'est pas possible.
Si il fallait les ressortir,
on peut pas s'empêcher.
Ah non, on peut pas. On les aime, ces blagues. Ouais. Comme on t'aime toi d'ailleurs.
Oh, c'est sympa.
C'est vrai, c'est sympa.
Alors en 84, dans un puzzle game qui s'appelle Working Crew, on le retrouve dans la construction et la démolition. Ensuite, sur borne d'arcade en 84, il est golfeur.
Eh ouais, ça y est, on commence, on entre dans le sport.
Ouais.
Les métiers sportifs aussi.
Alors, dans Mike Tyson Punch-Out, en 1987 sur NES, on le retrouve comme...
Arbitre.
Oui, pas boxeur.
Mais il était déjà arbitre dans Super Mario Tennis aussi, non ?
Ah oui.
Super Mario Tennis.
Enfin non, pas dans Mario Tennis. Super Tennis, pardon. J'ai rajouté un Mario dedans.
Super Tennis, ouais, mais ça c'est la conversion d'un jeu qui s'appelle Family. Non, je sais. Enfin, c'est pas un jeu à base Nintendo. Ils l'ont juste traduit en version européenne et américaine Mario.
D'accord.
Sur les versions Game Boy et NES, il était arbitre. Et sur la version Super NES, c'était un rajout parce que c'est un jeu de Tonkinao, c'est pas de Nintendo.
D'accord.
Okay, mais je te crois sur parole.
Ah, je te le firme.
Est-ce que vous saviez que Super Mario Bros. 2, qui est très connu sur NES, sorti en 88. C'est en fait une adaptation d'un autre jeu où on retrouve pas Mario et sa bande qui s'appelait Ume Kojo Doki Doki Panic.
On en a déjà un peu parlé, il me semble.
Moi
j'ai suivi hier, je me rappelle.
C'est très bien. Et donc on peut dire qu'il est au chômage hein, puisqu'il n'était pas dans ce jeu.
Ah oui, ouais.
Il nous aura tous fait. Hein. Alors ensuite, on le retrouve dans Mario 3 sur NES comme homme grenouille, lanceur de marteau, ermite, raton laveur. Est-ce que c'est des métiers ?
Est-ce que c'est des métiers ? Bon.
Ouais, bon.
Il est cosplayer.
Il est cosplayer.
Ouais, Mario est cosplayer en fait. C'est lui qui a inventé le cosplay.
En fait, sur son CV, il y a marqué cosplayer.
Ouais, c'est clair.
Et est-ce que c'est un métier que de sauver les princesses ? Comme par exemple en 1989 dans Super Mario Land sur Game Boy.
Un pré-chevalier, hein, pourquoi pas ?
Je sais pas s'il est payé pour
au
ça.
Au Moyen Âge.
Ah, il est payé en nature, mais on le sait pas.
Quand ouais, il est payé princesse. En pièces qu'il récupère dans les niveaux.
C'est lui qui se paye, quoi. Et puis, quand on sauve une princesse, après on doit payer. C'est là que ça commence. Donc, je sais pas s'il va vraiment y gagner. Mais par contre, après, il a fait médecine. Et en 1990, sur NES, sort Dr Mario.
Ouais. Et il est efficace en plus. Hein.
Ouais. Alors, oui. C'est un peu particulier parce qu'il donne des antibiotiques à tout va, que ce soit des virus ou pas.
Alors que les antibiotiques, c'est pas automatique.
Au final, si aujourd'hui on a des problèmes avec la sécu en France, c'est à cause de Mario qui balance des médocs à tout va, quoi.
Oh, c'est surtout
Japon,
faut lui
faire un procès. Hein.
Alors, on le retrouve comme serveur dans un grand restaurant, dans Mario & Yoshi, sorti sur NES et Game Boy.
C'est vrai.
En fait, il alterne les plateaux, il a deux plateaux droite et gauche,
ouais.
Il doit superposer pour que les aliments...
Faudrait quand même qu'on trouve la notice de ce jeu, je crois que je dois l'avoir encore. Moi aussi, et du coup, pour voir exactement comment ils ont justifié le fait que quand il y a deux plats qui se ressemblent, ils s'annulent, quoi.
On va savoir. C'est la magie du puzzle game, ça.
Ouais, voilà.
La digestion. Alors, en 91, dans Mario Teach Tipping, Mario Teach Tipping.
Ouf. Ça me rassure, t'es aussi bon en anglais que moi, c'est bien.
Il est meilleur en japonais.
Je suis meilleur en japonais.
C'est vrai en plus.
C'est un jeu ludo-éducatif, donc là, on peut dire qu'il est étudiant, on apprend à taper. C'est sorti sur MS-DOS, en fait. Donc, en fait, avec le clavier, on tape en fonction de ce qu'il y a à l'écran.
C'était sur quoi, ça ? Sur MS-DOS ?
Sur MS-DOS.
Putain, j'aimerais bien avoir une image.
Il est donc dactylographe.
Ouais.
Secrétaire.
On le retrouve dans un autre jeu du même genre sur MS-DOS, un jeu ludo-éducatif toujours, en tant que paysan cuistot.
Ah, ça c'est original aussi pour Mario, tiens.
Ouais, bah en fait, c'est pas vraiment ses métiers, mais c'est-à-dire que c'est un jeu où on doit dessiner. Donc il y a le dessin, on doit juste mettre les couleurs. Donc
on voit une image de lui. Alors c'est peut-être plus du passe-temps alors que son métier.
Ouais, mais on le retrouve comme paysan, donc peut-être qu'il est quand même financé, j'espère
peut-être.
Pour lui. Hein.
Après avoir filmé Sony, il a fait paysan.
Et sur CDI en 91 dans Mario Hotel, on le retrouve comme hôtelier.
Comme porté, ouais, je dirais presque.
Quoi?
Il est bien, ouais. Hotel Mario, c'est un super jeu.
C'est un jeu de puzzle, c'est ça, hein, je crois.
Il faut que tu fermes des portes. C'est vrai, ça, il faut toutes les portes à l'écran, pour pas que les amis en sortent. Il est génial. J'en parlerai peut-être un jour sur Hotel Mario.
Ouais, ça peut être marrant. Et pour en revenir à ton Mario Bomb Away, j'ai regardé un peu. En fait, il faut tout simplement éviter les tirs ennemis et aussi éventuellement tes coéquipiers qui balancent de temps en temps des mégots de cigarettes dans des trucs d'huile apparemment. Enfin,
mais c'est dangereux.
Ouais. Et donc et après faire passer des bombes pour exploser les ennemis. Enfin bon, ça a l'air d'être assez particulier quand même pour Mario.
Soldat.
Voilà.
Ouais. En 91 sur Game & Watch, dans Mario the Juggler. Donc là, il est jongleur. Ça, c'est un métier du cirque, ça compte.
Métier du cirque,
ouais. Saltimbanque, ouais.
Et dans Mario Paint, il est, on va dire, dessinateur, musicien.
Artiste.
Ouais, il fait beaucoup de choses dans.
Bah, il joue de la
musique.
C'est
un génie.
Dans Mario Paint, quand tu fais de la musique, et ben quand tu joues ta partition, tu vois un petit Mario qui saute sur les notes partout.
Ah, c'est un génial, génie, Mario.
Ça. Ouais, ouais. On a encore le temps de dire qu'il était pâtissier dans Yoshi Cookie en 92.
Ça, c'est fait. Et maintenant, je vous annonce qu'on va écouter l'opening de Wario, Waluigi et Koopa. Koopa en tant que Bowser en Jap. Hein, si je comprends bien. Et après, on revient pour donner la parole à Nelly.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
De retour dans Génération Prestart pour Try Again, la partie rétro de Génération Prestart où aujourd'hui on va parler de Mario Tennis. Je vous invite à nous rejoindre sur le chat de l'émission de radio. D'habitude on est quasiment tous présents pour un petit peu animer, à nous laisser des petits commentaires aussi sur la page de la radio. On peut?
Ah oui, on peut. C'est un peu voilà. À retardement, mais il n'y a pas de souci.
On aime bien quand même, voilà, pour faire un petit peu de pub comme ça, quand même, de temps à autre. Et puis maintenant, Nelly, fais-moi rêver avec Mario Tennis.
Ah, je vais vous faire rêver. Non, je vais vous faire vous amuser parce que c'est vraiment un jeu fun. Nous voici donc arrivés en 2000, très exactement le 3 novembre en Europe. Et voilà Mario avec ses petits camarades qui sont de retour. Et cette fois-ci, ils ont décidé de s'affronter au tennis sur Nintendo 64. Alors dès le départ, on retrouve évidemment nos personnages préférés de l'univers Mario. On va avoir 16 personnages, dont certains qui sont donnés dès le départ et d'autres qui sont débloquables. On va retrouver Mario, Luigi, Peach, Baby Mario, Yoshi, Deka, Paratroopa, Donkey Kong Junior, Wario, Waluigi, dont c'est la première apparition dans un jeu tel que celui-ci, wow. Voilà, Nintendo. Daisy, Todd, Birdo, Bowser, Boo, Shy Guy. Je crois que j'en ai pas oublié. Alors pour faire tout de suite répondre tout de suite à une des questions, c'est un jeu fun, donc le scénario n'est pas bien élaboré, même si ça commence tout de suite avec beaucoup d'humour pour nous mettre quand même dans l'ambiance. Donc on voit arriver Mario avec son frère et ses amis avec des raquettes sur un terrain. On voit qu'ils ont très envie de jouer, de se faire un petit tournoi entre potes. Et puis on voit Todd et les bonbons et une bonbombe qui sont dans la loge, des commentaires tout joyeux et tout. et tout d'un coup, un peu dans un coin sombre, on voit arriver Wario, accompagné donc de Waluigi. Donc Wario, le double un peu maléfique de Mario, et Waluigi, donc le nouveau double maléfique de Luigi. Et eux aussi, ils vont vouloir s'affronter au tennis. Ils arrivent un peu avec l'air menaçant. On a un duel de regard entre Luigi et Waluigi, et entre Mario et Wario.
Les Italiens,
et
tout ça.
Hein. Sous le regard inquiet des deux princesses, Daisy et Peach, toujours aussi chochotte, hein, on va pas se le cacher. Et puis on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se taper dessus. Et non, là, il y a Bowser qui arrive, accompagné de Boo, qui fait un bond sur le terrain. Tout le monde est alors encore plus inquiet qu'avec Waluigi et Mario. On est vraiment inquiet. Qu'est-ce qu'il va faire Bowser? Il va encore kidnapper une princesse ou je ne sais quoi. Et non, finalement, tout d'un coup, il a un gros sourire et il fait mine que lui aussi, il veut jouer. Et là, la compète commence, tout le monde est content. On se retrouve donc sur le terrain de tennis à se faire des parties endiablées de tennis. Donc tous ensemble, on joue au tennis dans l'univers coloré, sympathique, dynamique de Mario à travers plusieurs modes, puisque vous allez voir que c'est un jeu qui est vraiment, on va dire, léché. Hein. Il est vraiment bien travaillé, enfin c'est incroyable.
Léché à ne pas confondre avec baveux.
Pas confondre avec baveux. Léché dans le sens vraiment bien travaillé, même si c'est un jeu où on doit s'éclater, colorer, etc. dans un univers marron, il va vraiment être travaillé. Alors on va tout de suite avoir le choix entre trois modes de jeu. On a d'abord l'exhibition, dans lequel on va pouvoir s'entraîner tout simplement, quoi, faire un petit match d'entraînement. On va pouvoir choisir avec quel personnage on joue et on va jouer contre un ordinateur. Il va y avoir le mode tournament, qui est évidemment un tournoi. Et là, on retrouve les marques La Patte de Mario, puisque dans ces tournois, on va pouvoir remporter trois coupes différentes. La Cup Mushroom, la Cup Flower et la Star Cup. Je pense que ça doit vous rappeler des choses, les joueurs de Mario Kart, je suppose. Hein,
ouais, moi, il y a plein de choses qui me rappellent des trucs avec des cups.
Tout à fait.
Ah non. Non.
Bon, allez, la suite,
bon, si tu nous écoutes.
Une cup.
Enfin bon. Et puis, donc ensuite, on a le mode Ring Shot. Donc là, ring, ça veut dire l'anneau. Ça va être un peu particulier. On quitte un peu l'univers du tennis classique, puisque le but, ça va être de jouer au tennis, mais en faisant en sorte que la balle passe à travers des anneaux. Et à l'intérieur de ce Ring Shot, il y a encore plusieurs modes. Donc il y a le mode Game. Donc là, on joue à une partie tennis, mais en voulant marquer des points. Les points, on va les marquer en fonction des anneaux qu'on aura croisés avec la balle. Donc quand on gagne le point, on gagne le nombre d'anneaux qu'on a fait croiser. Il y a le mode points. Donc là, il faut faire un maximum de points en traversant les anneaux dans un temps imparti. Plus l'anneau va être petit, donc plus il est difficile à viser, plus il va rapporter de points. Il va y avoir le mode time, où il faut on a un nombre d'anneaux prédéfini à éliminer avant la fin d'un chrono. Donc là, c'est plus tout à fait non plus une partie normale. Et on a le mode balle. Donc on a par exemple 5 balles pour faire le plus d'anneaux possible, le plus d'échanges possible et traverser le plus d'anneaux. Lionel, t'as une question? Ah, j'ai cru que tu t'avançais.
Disais, c'est trop
avec un air interrogatif. On a ensuite le Bowser Stage. Donc ça, c'est un mode aussi très sympathique, puisque c'est de nouveau un match de tennis. Sauf que cette fois-ci, les terrains vont être très particuliers. Ils vont pouvoir se balancer, perdre l'équilibre. Si on va aller plus à droite, le terrain va pencher sur la droite. Plus à gauche, il va pencher vers la gauche. Et puis, on va retrouver les objets de Mario. La carapace rouge qui va paralyser l'ennemi, qui va le viser et le paralyser. La carapace verte, bah comme dans Mario Kart, hein, la carapace verte, elle ne vise pas. Par contre, ici, elle va aller. On va avoir trois carapaces vertes qui vont qu'on va jeter d'un coup, qui vont aller dans trois directions prédéfinies. Donc là, l'ennemi a quand même une chance de s'en sortir s'il arrive à être entre deux carapaces. On va avoir la traditionnelle banane qui va faire lamentablement tomber notre ennemi. Il va avoir un air ridicule sur le terrain. Évidemment, on va pouvoir en profiter pour marquer le point. Le champignon. Le champignon qui nous donne quoi?
Déplacer plus vite.
Évidemment, voilà, ouais, tout simplement. On est dans les codes de Mario. Donc une rapidité, évidemment, pour rattraper les balles avec plus de facilité. L'étoile.
Invincibilité.
Donc on peut passer sur les objets, on peut se faire envoyer des objets, rien ne nous touche. Et l'éclair. Alors on n'est pas, il me semble pas qu'on soit rapetissé, mais par contre nos coups sont plus lents. Et dans le livret ils disent même que nos coups deviennent pathétiques.
Il y a une grosse paralysie aussi quand tu reçois l'éclair.
Voilà, il y a une grosse paralysie sur le moment. Et puis, on a l'impression d'être un vieillard, quoi. Voilà. Il reste un dernier mode de jeu, qui est le Piranha Challenge. Alors, j'ai un petit peu moins joué. C'est vrai que on a pu jouer, même, je pense, autour de la table, au tournament, au ring shot, au buzzer aussi, parce qu'il y a les objets, donc c'est un peu fun. Le Piranha Challenge, en fait, on a des plantes piranha qui sont dans le fond du terrain, donc dans la partie adverse, et qui nous envoient des balles. Elles vont nous en envoyer 50, donc on ne sait pas de quelle plante piranha elles vont sortir. Et puis, sur le terrain adverse, il y a aussi un adversaire qui est dirigé par l'ordinateur. Et le but, c'est que quand la plante piranha nous envoie la balle, il faut la rattraper, il faut l'envoyer de l'autre côté et il faut faire en sorte que l'adversaire ne la rattrape pas. Si l'adversaire nous la renvoie, la balle n'est pas validée. Donc sur 50 balles, il faut essayer de faire 50 coups que l'adversaire ne peut pas rattraper. En sachant que les balles, on ne sait pas d'où elles viennent, de quelle plante elles vont venir.
T'as déjà réussi à passer 50 balles à l'adversaire ?
Non.
Ça doit être difficile.
Bon, alors après, on verra après comment on valide les différentes manches. Mais c'est vrai que pour la validation, il n'y a pas besoin forcément de faire les 50 dans certains niveaux. Hein.
Ouais.
Donc il y a une échelle à chaque fois de difficulté en fonction de ce qu'on veut débloquer. Donc déjà, on voit que c'est véritablement un jeu hyper riche. Parce que déjà, avec tous ces modes de jeu, on peut passer vraiment beaucoup de temps, on peut le prendre en main, on peut se faire des parties entre copains, on peut se faire des parties en solo. Donc rien que ça, déjà, je trouve que c'est fabuleux, les propositions qu'il nous donne, les propositions de jeu qu'il nous donne.
Ben, quand tu as déjà ne serait-ce que le jeu comme ça, sans rien débloquer dessus, c'est assez impressionnant. Moi, je sais que j'y avais joué le jour de la sortie même, avec sûrement nos auditeurs qui n'est pas inscrit nulle part, Jay, voilà. Et on s'était éclaté au mode ring shot durant vraiment pas mal d'heures.
Ah, déjà, ouais.
Le jour de la sortie, on s'était éclaté avec, quoi.
Souvent, c'est vrai qu'on joue beaucoup au mode de base, et souvent, les modes un peu entre guillemets mini-jeux, ils passent un peu à la trappe. Et là, c'est vrai que le ring shot, il est quand même extra. Le Bowser Stage aussi, il est marrant parce qu'on retrouve les objets de Mario, donc on peut se faire des super parties. Et puis, pour finir ma première partie, du coup, donc il y a une durée de vie énorme. Et ce qui rajoute encore à cette durée de vie, c'est qu'il y a des listes que l'on doit valider, les listes de trophées en mode tournoi, où on a une liste pour chaque perso, où on doit valider pour chaque perso, faire tous les tournois, gagner toutes les coupes. On a des niveaux différents contre l'ordinateur. On a le normal qui est repéré par un rond, on a le easy qui est repéré par un triangle, on a le intense qui est repéré par une étoile, le hard qui est repéré par deux ronds. Donc si on veut vraiment tout débloquer, c'est c'est la folie, quoi.
Il y a une durée de vie qui est assez importante, ouais, sur le jeu, quoi.
En exhib, c'est pareil. En exhibition, il y a quand même un tableau des victoires qui est tenu. En ring shot, à chaque fois, dans chaque mode, on a 5 parties à gagner qui sont repérables par un petit drapeau quand on les valide. Donc déjà, pour faire tout ça avec tous les personnages, si on a un vrai joueur,
ça
c'est immense.
Ça,
voilà,
prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Mais finalement, je ne joue pas facile en mode solo. Hein.
Non.
Mais t'as intérêt à faire avec tous les personnages pour les avoir en version étoile. Peut-être que t'en parleras plus tard, mais que du coup, voilà...
Ouais,
je ne spoilie pas plus
non,
que ça.
Non, on verra ça plus tard.
C'est un des gros intérêts. On va s'écouter une petite musique, la musique du menu, qui est toujours composée par Sakulaba Motoy.
M57 Radio.
Try Again. Try Again.
Et on est déjà de retour dans Try Again pour toujours parler de Mario Tennis. Je vous rappelle qu'il y a une appli iPhone pour, sur le site de M57 pour écouter la radio, qu'on est souvent sur le chat, sur les différents forums, sur les pages Facebook, qu'on est un peu partout, qu'on est joyable, qu'on aime bien avoir vos questions à l'avance parce qu'il y aura des questions ce soir d'auditeurs.
On adore, ouais.
On adore ça. On aime bien, ben voilà, de temps
être en lien avec vous.
Interagir avec nous, avec vous, nos auditeurs qui nous écoutez gentiment tous les mercredis soirs dans Génération Prestart pour leur rétro, enfin un peu plus rétro parce que il y a quand même les deux heures qui sont bien. Enfin, moi j'écoute les deux heures toujours. Enfin, après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Retour à toi, Nelly, pour...
Alors, il y a Lionel qui lève le doigt, je crois qu'il a quelque chose à dire.
Ouais, je voulais juste faire une petite remarque tout à l'heure concernant le Piranha Challenge. En fait, dans le Piranha Challenge, il ne faut pas que l'ennemi ne touche pas la balle. Il faut c'est juste que, en fait, quand si l'ennemi te renvoie la balle, après, tu as la balle que t'envoie l'ennemi et les balles que t'envoie le Piranha. Les
la balle de l'ennemi, tu peux plus la ravoir après. Une fois qu'il l'a tapé, tu peux plus, même si t'es dessus, tu peux plus la taper.
Normalement, si.
Bah moi, j'ai essayé encore hier soir et ouais, une fois qu'il l'a tapé, une fois que j'avais Luigi en face de moi, une fois que je lui renvoyais la balle, il me l'a re-renvoyé. Et je ne pouvais plus. Et c'est que les balles Piranha qui envoyaient qui faisaient le service, si tu veux.
Ouais.
Luigi ne fait pas de service. Luigi, il contre la balle que tu lui renvoies.
D'accord. Voilà. Bon.
C'est vrai que les plantes Piranha, j'y ai pas pu jouer que ça. C'est pas le mode qui m'a. Même s'il est, il est très bien, Martin. Tu disais que t'avais. Et puis en plus, faire les modes et les finir, ça permet de débloquer évidemment les personnages et de débloquer évidemment certains terrains.
Les nouveaux terrains, ouais, avec des nouvelles compétences particulières,
voilà, dont on
et des
va
nouveaux
parler.
Graphismes. Bah oui, vas-y, parle-en.
Voilà. Donc une autre. Alors, ce qu'on pourrait se dire quand on parle de Mario Tennis, c'est ludique, c'est jovial, c'est coloré. Mais le tennis là-dedans, dans tout ça. Bof quoi. Eh ben non, parce que c'est très travaillé et c'est on le voit même déjà dès le choix des terrains que l'on va avoir. Alors évidemment, on les aura pas tous du début, on va les débloquer, mais on va avoir vraiment comme un professionnel différents styles de terrain, on va pouvoir se refaire des compètes Wimbledon, Roland-Garros, etc.
Gazon, terre battue.
Voilà. Alors par exemple, on a le hardcourt qui est un court en béton recouvert de caoutchouc. Donc évidemment, ça va changer le mouvement de la balle, comment on va réagir sur ce terrain. Donc la vitesse de la balle sur ce terrain, ça va être une vitesse normale. Mais par contre, puisque le terrain est en caoutchouc, le rebond va être très fort. Mmh. Donc il va falloir s'habituer à cette façon de jouer pour pouvoir attraper la balle avec ce rebond qui est puissant. On a le grass court qui est un terrain en vrai gazon, donc avec du gazon. Là, la vitesse de la balle, elle va être rapide, mais par contre, le rebond va être faible. Donc, vitesse de la balle, on court plus vite. Par contre, rebond, il faut taper au bon moment, quoi. Le clay court, c'est le terrain en terre battue. Donc, sur la terre battue, on va retrouver, comme sur un vrai terrain en terre battue, la vitesse de la balle, elle va être lente et le rebond, il va être faible.
Ouais, donc effectivement, les terrains sont débloquables, quoi. Donc,
on a trois bases et puis après, il y a encore des rebonds plus ou moins forts, c'est ça, Nelly, non?
Surtout des dessins qui sont différents aussi sur les cours que tu gagnes. Donc certains terrains ont les mêmes caractéristiques que les terrains de base, mais ils vont avoir aussi des.
Mais d'autres vont avoir des nouvelles caractéristiques.
Et on va retrouver la terre battue, c'est ce qui se passe sur un vrai terrain terre battue. La vitesse de la balle est lente, le rebond est faible. Donc on va retrouver les sensations qu'on devrait avoir sur ce genre de terrain. Après, évidemment, il n'y a pas que le terrain, il y a aussi la manière dont on va jouer. Martin, tu te rappelles comment débloquer les terrains alors du coup? Tu voulais en parler ou pas?
Il faut finir le jeu avec les différents personnages.
Il fallait finir différents modes. Je crois qu'il y avait des fois du ring shot, des fois c'était pas du plateau de Bowser.
J'ai quelques exemples. Par exemple, pour débloquer le court Mario Bros, faut finir la Mushroom Cup avec Mario Bros.
Il fallait, je crois aussi. En fait, la première fois que tu finis le jeu, tu débloques l'étoile pour les personnages.
Ouais.
Et il me semble que si tu refais le jeu en mode étoile,
non,
là tu débloques
tu, non mais tu débloques tu débloques
tu fais deux d'un coup.
Ouais c'est tu débloques au fur et à mesure que tu joues, c'est-à-dire quand tu gagnes une coupe, tu vas gagner des fois des choses en fonction du personnage avec lequel tu joues. Par exemple, Yoshi Baby le Baby Mario et Yoshi Court, c'est faut gagner la Mushroom Cup avec Yoshi.
D'où et l'intérêt après, de jouer fois, avec plein de personnages.
Des fois, c'est la Mushroom Cup. Par exemple, là, pour Wario, ce sera la Star Cup qu'il faudra gagner en double avec Wario. Donc, c'est différents modes de jeu d'accord. qu'il faut finir. Alors après, ça peut être d'autres choses, comme par exemple, pour avoir le Piranha Court,
il faut réussir le challenge
du 50 balles avec les piranhas. Et après, il y a des choses qui sont débloquables aussi. Enfin bon, on en expliquera ouais. peut-être après, mais par l'intermédiaire du transfert pack, quoi.
Alors ensuite, ce qui apporte aussi au jeu, c'est qu'évidemment, nous ne sommes pas tous les mêmes joueurs de tennis. Quand on regarde un match, les joueurs de tennis n'ont pas tous la même technique. Et ben là, ça va être pareil. On va avoir des personnages qui sont all around. Ça veut dire qu'ils ont un peu de toutes les caractéristiques. Ça va être Mario, Luigi, par exemple. Et il va y avoir des personnages qui sont plus techniques, qui vont faire des mouvements plus facilement de tennis plus facilement. Il va y avoir des personnages qui sont speed. Donc par exemple Baby Mario, ça va être un personnage qui va avoir une rapidité plus grande. Il va y avoir des personnages qui sont tricky. Donc ça veut dire qu'ils font des coups des fois un peu tricks, c'est le tour, avec des effets. Donc ils vont faire des fois des ouais. coups un peu perturbants.
C'est ça, ouais, ça fait. Il y a des fois des réactions un peu bizarres, quoi, presque anormales, comme s'ils mettaient effectivement un lift ou quelque chose dans la balle qui faisait aller la balle de monter très haut, soit descendre très bas.
Voilà. Et puis il va y avoir évidemment les personnages power qui sont très forts, donc Wario, Deka, etc. Donc ces personnages vont être plus forts, vont envoyer avec la balle avec plus de puissance. Ce qui change aussi sur les personnages, c'est qu'ils n'ont pas la même taille. Et ce qui va être important, souvent, ça va être le moment où on va taper la balle. Donc en fonction de chaque personnage, puisque c'est important de jouer avec tous, puisqu'ils peuvent chacun débloquer des choses, il va falloir retrouver sa maniabilité, retrouver comment on va jouer, ses repères, pour savoir quand on va faire des beaux coups. Alors comment ça se joue ? Bah, tout simplement, A et B sont les boutons de base pour rattraper la balle. Donc on s'approche de la balle. On va faire soit A, soit B. Alors A, c'est ce qu'ils appellent une frappe ouverte, une frappe normale. B, ça va être plus pour la frappe slicée, donc avec une trajectoire un peu incurvée de la balle. Ce A et ce B, on va pouvoir les combiner de différentes manières. Par exemple, si on bourrine plusieurs fois le bouton A ou qu'on bourrine plusieurs fois le bouton B, le personnage va se stopper, va être immobilisé. On va voir apparaître autour de lui des éclairs. Il va concentrer son énergie. Et au moment, alors évidemment, il faut le concentrer au bon endroit. Donc, il faut essayer d'évaluer où la balle va arriver parce que il peut plus bouger. Donc, au moment où la balle s'approche de lui, on va frapper, on va faire une frappe puissante. Ouais. Évidemment, si on a mal calculé, on n'est pas proche de la balle. Donc, on va pouvoir quand même se débloquer en faisant Z. Voilà, on annule, mais par contre, on a concentré pour rien, on est un peu à la dèche parce qu'il faut du coup vite se débloquer et vite aller vers la balle pour la rattraper. Donc ça, c'est un peu les deux boutons de base avec lesquels on peut tout simplement jouer. Après, donc il y a des combinaisons A vers B, donc A et puis B rapidement avant d'attraper la balle, ça fait ce qu'on appelle un lob. Donc dans le jargon tennistique, ça veut dire qu'on fait passer la balle au-dessus de la tête de l'adversaire.
On essaye.
Le lob va être évidemment en général à placer quand l'adversaire est très proche du filet. Parce que si on l'envoie en lob et qu'il est très loin, il a largement le temps de venir.
Et le risque, c'est qu'il fasse un super coup derrière.
Qu'il fasse un smash. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il tape la balle au-dessus de sa tête. Et en général, quand on fait un smash, c'est très
difficile
fort, très puissant, difficile à rattraper. Ce smash,
on peut smasher un smash.
Oui, tout à fait. Alors oui, alors c'est plus dur parce que normalement un smash, il doit être très près du filet. Donc
pour expliquer comment faire, il faut que ce soit un smash d'un personnage très grand et que le smash contré soit fait par un personnage très petit. Par exemple, Bowser en fond de cour va faire un smash, bébé Mario au filet peut smasher un smash.
Voilà,
c'est possible.
Faut être bien placé aussi. C'est ça la grosse difficulté.
Faut surtout avoir le temps de le smasher, quoi. C'est surtout ça parce qu'il y a quand même un laps de temps assez court entre le moment où la balle est tapée quand elle est en smash et le moment où elle est smashée.
Le réflexe de faire A et B qui est le coup du smash, donc pour porter le coup au-dessus de sa tête.
Disons qu'après les smashs, tu peux en faire à différents niveaux, mais pour faire le smash fort qui est vraiment un coup
le
rapide.
Le smash fort, alors on a une possibilité. Quand le personnage essaie de nous lober ou que malheureusement il n'a pas fait exprès mais il fait une balle haute, il va apparaître sur le terrain une étoile jaune qui va apparaître. Cette étoile jaune, elle vous dit où vous positionnez pour non seulement faire un smash, mais un smash destructeur, on va dire. Donc si on arrive à se mettre dans cette étoile au bon moment, assez tôt, et qu'on arrive en plus à se concentrer en faisant plein de fois, et ben là on envoie, en plus si en plus on a un personnage qui est power, on envoie un truc qui est destructeur et c'est souvent pas rattrapable.
On envoie un gros scud.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, on nous dit aussi dans le livret, alors j'ai pas testé, j'ai pas remarqué, mais on nous dit dans le livret que si on renvoie la balle en étant proche du filet, c'est comme dans un jeu réel de tennis, on va avoir l'avantage de la vitesse sur l'adversaire. Oui, on est plus proche, donc forcément, l'adversaire va peut-être avoir moins le temps de réagir. Mmh. Alors, je sais pas si c'est techniquement qu'ils l'ont fait ou si c'est parce que c'est tout simplement logique, mais enfin bon, c'est ça aussi, c'est on le sent. On a la possibilité de mettre son personnage en gaucher, puisqu'on a des tennisman très connus. Il me semble que Boris Becker était gaucher. Enfin, il paraît que les gauchers ont beaucoup d'avantages à jouer au tennis. Donc, on peut se mettre en gaucher si on est gaucher en faisant L. On peut, pour servir, tout simplement. J'ai oublié le service qui est quand même très important. Le service se fait très simplement. On appuie une première fois sur A ou sur B pour lancer la balle. Et quand la balle est en hauteur, on rappuie une deuxième fois pour la rabattre.
Et on peut appuyer deux fois si on veut faire un tir fort.
Voilà.
Avec A et B en même temps. En fait,
on peut donner en plus des effets.
A et B
n'est
pas forcément le meilleur service.
Oui, mais on peut potentiellement faire un service matché.
Voilà. Mais souvent, c'est pas forcément le plus fort.
Non.
Souvent, il va à côté.
On peut en plus diriger, alors bouger son personnage avant de servir.
Sur la ligne.
Et on peut diriger, alors ça je ne l'ai pas dit, mais que ce soit au service ou que ce soit au moment de frapper, avec le stick, on va donner, au moment où on appuie pour frapper, on va donner une direction à sa balle.
Oui, c'est
donc
le
on
moment
a vraiment le choix.
Oui, ouais, c'est ça. C'est le moment où le personnage est bloqué. De toute façon, on peut orienter la direction, la profondeur du tir.
Voilà.
Et il faut noter aussi que quand on se match, si on se match avec le timing parfait, il met un petit nice sur le. Ouais.
Alors le timing parfait, alors c'est même pas quand on se match, c'est quand on sert.
Quand on sert, oui, pardon.
Alors ça, c'est justement, c'est une technique à prendre en fonction du personnage qu'on a, puisque c'est, il faut taper au moment où la balle va être la plus haute, mais la plus haute par rapport à la taille de son personnage. Quoi.
Bah, oui.
Donc il faut vraiment gérer, connaître ses persos, s'habituer aux persos pour faire ce service nice.
Et après, t'as la vitesse de la balle.
Alors. Oui, j'allais dire. Alors oui, on voit afficher la vitesse.
Mmh. Alors on voit d'ailleurs une nette différence quand on passe en star. Hein. C'est assez impressionnant, quoi.
Donc, alors on va expliquer le star parce que on en a parlé de plusieurs fois déjà.
Ouais.
Quand on finit le jeu avec tous les personnages, on gagne la possibilité de choisir son personnage ensuite. En mode, on va dire, étoile.
Il faut finir tout le championnat avec.
Voilà, ce mode étoile.
Et ce mode étoile donne des pouvoirs. Le personnage est un peu plus rapide,
voilà.
Plus fort. Et
plus rapide, il est amélioré, on va dire.
Fort.
Et donc, plus compétent.
C'est ça ce que je disais avant, c'est que moi, quand j'ai fait le jeu à l'époque, j'ai tout débloqué. Parce qu'en fait, si tu veux avoir l'étoile pour tous les personnages, pour rendre le jeu équitable quand tu joues entre amis,
ouais.
Pour que chaque lapin veut prendre tout le monde, et bien t'as envie de faire ça. Et donc, du coup, tu débloques presque tout dans le jeu.
Ouais, d'accord.
Donc, c'est super. Logique, quoi, dans la continuité. Si tu veux juste avoir super personnage en mode étoile, déjà tu débloques énormément.
Ouais, ouais. Puis c'est vrai qu'une fois qu'après on a fait le jeu et qu'on a les personnages en mode étoile, en général on joue plus qu'avec son personnage en mode étoile parce que l'autre
quand
il nous paraît.
Quand tu reviens avant, tu fais ah non, quand même.
Ouais, c'est il nous paraît lent,
c'est
il nous paraît.
De passer, voilà. De passer.
Et du coup, les parties sont plus courtes aussi parce qu'on gagne le point et se fait plus rapidement généralement.
Ouais.
C'est plus au talent.
Ah,
quoi.
Ça dépend, mais parce que
non, parce
on est
que
talentueux,
ça
les échanges sont longs. Hein.
Ouais, ça donne un peu plus l'aspect réflexe et ouais, non, c'est plus sympa. Et en même temps, ça te permet aussi de rattraper des balles que t'aurais peut-être pas rattrapé parce que ton personnage est plus rapide aussi. Donc
moi, je trouve les échanges plus dynamiques.
Ouais,
fait,
voilà,
ouais.
Beaucoup plus sympathique. Parce que bon, moi, c'était un truc qui nous avait choqué quand on avait rejoué à Mario Tennis, quand on était revenu à la première version, enfin à cette version-là sur 64. C'est que contrairement à la version GameCube, il est beaucoup beaucoup moins permissif, quoi.
Ouais, il est beaucoup plus technique.
Il est beaucoup plus technique, je trouve.
Il faut être proche de la balle, alors que sur Cube, on a une distance.
Ouais,
on peut taper, il saute.
Il y a
une facilité qui est dérangeante, on va
et
dire, quand
Cube,
on vient en premier.
Les super attaques pour contrer, je veux dire, ça te donne des points rallonges sans
spéciaux,
cesse.
Ouais.
Alors que sur cette version-là, t'as pas ça, mais quelque part, c'est pas plus mal parce qu'au moins, tu sais pourquoi tu gagnes ou pourquoi tu perds.
La version GameCube avec les super pouvoirs est intéressante. Si on prend la mode manuel, parce que le mode automatique va automatiquement faire le coup qui sauve pratiquement,
voilà.
Et dans tous les cas, et de temps en temps, si vraiment on est bien placé, le coup machin.
Bah, ce qui est dommage sur Cube, c'est qu'on puisse pas jouer sans. On peut pas dire je joue à un mode normal sans les coups spéciaux.
Je suis pas sûr.
Après, en manuel, on n'est pas obligé de les faire. On n'est pas obligé de les faire en manuel, mais comme ils sont là, on est quand même tenté.
Je suis pas sûr. Je sais plus si on peut les désactiver ou pas. Oui, ce serait intéressant.
Mais je suis pas sûr. Je crois pas. Je voulais préciser encore une dernière chose au point de vue technique qui a été travaillé. C'est le code couleur au niveau de la balle. La balle, elle va pouvoir prendre des couleurs, et quand on va les connaître, ça va nous donner des indications. Par exemple, alors déjà quand quand une balle a une couleur, c'est que déjà l'adversaire il a fait quelque chose. Donc déjà on se méfie.
Il a déjà fait un bon coup.
Voilà. Quand elle est orange, c'est une frappe ouverte. Quand elle est bleue, c'est un slice, donc quelque chose de croisé, de rapide. Et quand elle est rose, c'est un smash, donc elle arrive avec une bonne patate. On va se la prendre dans la tête. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, chose très comique,
il
y a de l'humour dans Mario. On peut, les personnages se prennent les balles dans les tronches.
Et on perd.
Et Peach, elle se met à genoux, elle pleure. Quand c'est bébé Mario, le pauvre, il est tout petit, il se prend la balle dans la tronche, on a pitié pour lui.
On a bien les nerfs de perdre le point là-dessus, parce qu'on peut rien faire, quasiment.
Il y a vraiment plein d'animations vraiment sympathiques dans ce jeu. Ce que disait Elion, alors on voit la vitesse du service. Quand on va être en tie-break, on va avoir une certaine pression, il va y avoir une musique un peu stressante. On va pouvoir... il va y avoir les jeux de caméra, c'est l'Aikitu, son petit nuage qui a la caméra. Et quand on va être en période de tie-break ou de points gagnants, on va avoir des gros plans, des personnages qu'on peut jarter, hein, si ça nous embête, mais qu'on peut laisser pour l'ambiance stressante.
Les boboums qui font les coupas qui font les fonds de terrain.
Voilà, et les bonbons qui explosent
quand on fait un out, quoi. C'est assez rigolo, quoi.
Revenir sur ce que tu disais avec les balles dans la tête que tu prends. Moi, je me souviens que ça nous arrivait très souvent quand il y avait deux personnages au filet.
Ouais.
Et qu'en fait, il y avait beaucoup d'échanges au filet. Puis d'un moment, en fait, le plus lourd des deux, on va dire le plus lent des deux, on se la prend dans la gueule. Malgré ce que tu disais avant avec le fait qu'effectivement, quand t'es au filet, t'as l'avantage. Mais ça, t'as deux joueurs au filet qui se l'envoient rapidement. Le jeu peut être super, super rapide. Hein.
Ouais, et puis après, il y a au filet. Enfin, entre être collé sur le filet, où généralement, c'est là qu'on se la prend sur la tronche, et être avancé vers le filet, il y a encore une différence. Et le jeu,
il y a des cas où si t'es placé pile sur la trajectoire de la balle, mais que t'es même en fond de cours, on a déjà vu des cas où on se prenait quand même aussi la balle dans la
filet. Oui, c'est vrai. Si c'est des bonnes patates,
c'est bien rigolo, bien frustrant pour le joueur qui se la prend, mais c'est vrai que ça donne un petit côté fun, quoi, parce que c'est pas le genre de choses qu'on verra dans un jeu un peu plus.
Ce qui est aussi marrant, c'est que cette même animation, on peut la voir qu'on prend une balle dans le dos.
Oui. Et puis alors on peut aussi des fois quand on joue entre copains, il y a des gros boulets qui connaissent pas forcément très bien les règles du tennis ou qui le font exprès. Ah, voilà, c'est service, pour ça que je dis gros boulets. Oui. Au service, donc j'explique, au tennis, au service, on a un service croisé et c'est quand on est en double, hein, quand on est en double, c'est le personnage qui est en croisé qui doit rattraper la balle. Et évidemment, ça arrive quand on joue à plusieurs, que ce soit l'autre qui se précipite parce qu'on a envie de jouer, on a envie de taper dans la balle, et qui prennent la balle au service, c'est évidemment ses fautes.
Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas ça comme faute.
Prendre la balle avant le rebond.
Prendre la balle avant le rebond. Et il y a surtout un truc qui est marrant. Moi, je me souviens, on faisait ça en ring shot, hein, pour empêcher les gens de marquer des points. Au service, quand ils lancent la balle en l'air, tu peux pousser le personnage.
J'ai jamais essayé ça.
Il y en a qui a des pieds statiques au sol, et donc quand t'es en double, le deuxième peut aller sur lui, et quand il va aller marcher vers lui, si l'autre veut taper la balle, en fait, il aurait été poussé, il va pas taper la balle, il va taper à côté, ça va faire faute.
C'est génial, j'ai jamais essayé.
Ton partenaire quand t'es en double, il y a des trucs magnifiques dans ce jeu, tu peux t'éclater.
C'est un jeu vraiment soigné, avec une jouabilité quand même, je veux dire, même si c'est un jeu ludique et que c'est pas c'est Mario avant d'être du tennis, mais je veux dire, on a quand même des sensations de jeu de tennis digne.
On a un bon jeu de tennis arcade, je dirais, quoi, un truc accessible. C'est pas de la simulation non plus, mais je trouve quand même qu'il est excessif.
Il est quand même proche quand même.
Et que si on joue au mode traditionnel, on va dire, on ne sera pas dans du Virtua Tennis, c'est sûr. Mais je trouve qu'il est quand même pas mal par rapport à la suite, hein, comme on disait tout à l'heure, Mario Power Tennis, qui lui, bon là, c'est complètement éloigné. Enfin bon, là, il y a carrément du grand délire.
Il est presque parti game, quoi, le Mario Power Tennis.
Oui, mais c'est ça. Et même les autres sports qui vont arriver par la suite, que ce soit le foot ou le basket, on va être plus dans le délire de pouvoir se taper, de se cogner, de s'envoyer des objets, que véritablement ce que nous permet le mode tournoi dans celui-ci.
Dans le sport, justement, je trouve que la force de ce Mario Tennis là, c'est qu'il arrive d'un côté à nous faire un jeu tennis classique, si on veut, et en parallèle tu peux avoir le mode ring shot qui ressemble un peu à, excuse-moi la comparaison, presque à un Mario Golf, et un mode avec les items presque à un Mario Kart, alors que c'est un jeu tennis, mais qu'ils aient réussi à faire une telle polyvalence dans le jeu avec différents modes qui t'offrent plein de choses, ben c'est très fort, ça sa vraie force.
Et puis la richesse des personnages quand on joue en double, c'est les combinaisons qu'on peut faire entre les personnages, on va pas retrouver deux fois la même partie, parce que si on prend un grand, un petit, un fort, un technique, deux forts, enfin c'est une richesse incroyable au niveau du jeu. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais on a toujours rigolé, quelles que soient les parties.
Revenir sur la jouabilité, moi j'ai trouvé que c'était bien meilleur qu'un Amazing Tennis ou un Super Tennis aussi, où j'ai toujours beaucoup de difficultés. Ah, que dans ce jeu-là,
tu
ça allait.
Tu parles de vieux trucs en comparaison, c'est pas jouable, c'est pas les mêmes personnes qui l'ont développé. Toujours est-il qu'en attendant, on va s'écouter la musique du tournoi ainsi qu'un musique pour le match avec un breakpoint. Et après, on revient pour les questions des auditeurs et la fin de l'émission par Lionel.
M57 Radio.
Hits and Move.
Hits and Move.
Nous sommes toujours là pour vous accompagner pour la dernière partie de Try Again. Et ouais, déjà presque la fin. Hein. Déjà, ça passe trop vite. Je sais même plus, j'en perds mes mots, excusez-moi. Je donne la parole à Lionel parce que lui, il a l'air de savoir où est-ce qu'on va.
Merci Martin. Donc je commence vite fait par les questions des auditeurs. Donc comme chaque semaine, on a eu quelques petites questions. Donc d'Alex spécialement pour Nelly qui demande est-ce que c'est important pour toi la paille du tennis ?
Alors la paille du tennis, qui est important, les mecs, c'est plutôt la largeur, hein. D'accord, soyons clairs, hein. D'accord.
Oui, bien sûr.
C'est la largeur du cours.
Est-ce que je peux répondre aussi, Alex ?
Vas-y.
Je vais lui répondre à une citation de Shin Angel 3. Mais tu vas pas faire ça avec ta raquette ?
Ah, sympa.
Bon, bref. Sinon, on a une question intéressante de SFL Hunter qui demande si le transfert des personnages était utile ou purement accessoire.
C'est ce qu'on n'a pas dit.
Voilà,
qu'il y a une possibilité en plus des personnages de transférer le perso qu'on aura créé sur Game Boy Color ou les persos sur le
jeu. Sur le jeu par l'intermédiaire du transfert pack qui était disponible, qui se mettait au fond, sur le fond de la manette.
N64.
Dans le port d'extension de la manette 64. Alors moi je veux bien répondre à cette question en fait, puisque j'avais fait à l'époque le jeu Mario Tennis, j'avais même cherché désespérément le jeu Mario Tennis sur Game Boy Color.
Exprès pour ça.
Et l'expansion pack exprès pour ça. Et ça servait aussi pour Mario Golf, mais c'était moins utile.
Pour Pokémon Stadium aussi.
Pokémon Stadium, exactement. Donc, c'était effectivement utile parce que sur la version Game Boy, il y avait en fait déjà des choses à débloquer sur la version Game Boy. Donc on pouvait débloquer les tournois seulement en faisant les tournois, en fait les coupes dont on a parlé tout à l'heure sur la version Nintendo 64. Donc ça nous permettait de débloquer certaines choses, et en même temps ça permettait aussi de débloquer des cours en plus, il me semble, dans le jeu sur Nintendo 64. Donc le fait d'importer des personnages faisait ça, et en même temps quand on rapatriait son personnage le personnage restait quand on l'exportait de la cartouche, contrairement à dans Mario Golf où il fallait brancher impérativement à chaque fois la cartouche Game Boy sur le transfert pack, là on transférait nos personnages et quand on les ramenait sur notre console on récupérait de l'expérience donc accumulée dans les matchs qu'on avait fait sur la Nintendo 64, et on avait en même temps on récupérait les coupes qu'on avait gagnées en fait dans la version.
Et puis tout simplement, 64. On avait le plaisir de pouvoir jouer avec son personnage, avec son nom. Voilà. On essayait de faire quand même, avec on pouvait faire des personnages qui pas ressemblants, mais on pouvait prendre des persos qui pouvaient nous ressembler quand même. Moi, je sais que mon perso, il était petit, les cheveux bruns, les cheveux longs, et elle s'appelait Nelly, donc j'étais contente de pouvoir jouer avec Mario contre Mario avec Nelly.
Mémoire, par contre, les personnages que tu pouvait importer sur la version cartouche N64 était au nombre maximum de 2.
4 non
4 ah 4
oui 4 ouais.
Ah je croyais 2, bon,
non, 4.
Je me suis trompé,
enfin, je sais pas si c'est le maximum, mais en tout cas sur ma cartouche il y en a 4.
On ne pouvait pas après les avoir en personnage étoilé.
Ouais, c'est ce qui me semble aussi.
C'est ça le problème.
C'était plus mauvais que les autres.
Mais
voilà.
Non, ils n'étaient pas plus mauvais parce que si tu les entraînes les vachement bien sur.
Quand ils étaient boostés au max, honnêtement, ils équivalaient les personnages étoiles. Mais le problème, c'est que ça prenait beaucoup de temps à les faire évoluer.
Il fallait faire l'interaction entre les deux pour arriver à les avoir à un niveau suffisant pour qu'ils puissent.
Pour qu'ils puissent rivaliser quand même avec les autres. Parce que c'est clair qu'en début, moi j'ai essayé, j'ai dit, j'avais un peu monté mes personnages, je les ai transférés. Au début, je galérais parce qu'il était tout lent, il tapait pas fort, il se faisait passer tout le temps. C'était une infection quoi. Après je les ai montés de quelques niveaux et je suis revenu avec le personnage sur le 64, ça allait déjà mieux, et au fur et à mesure
c'est là qu'on sent qu'ils ont bien travaillé hein, parce que tu sens l'évolution véritablement en fonction des levels que tu prends. Mais tu sens la différence,
ça peut être frustrant parce qu'effectivement t'as l'impression que tu joues bien, enfin que ton perso est potentiellement correct quand tu joues sur la version Game Boy, par contre quand tu le transfères il est moins bon
mais d'un autre côté c'est Mario et ses copains hein, c'est des super héros, ils sont vachement plus forts,
c'est ça. Voilà donc sinon il demandait également si le jeu avait plus touché le public que Mario Golf sorti l'année d'avant. Je dirais que c'est une question de point de vue.
Moi, le tennis, ça me touche plus que le golf, parce qu'on peut jouer à plusieurs, au golf aussi, mais c'est chacun son tour. C'est tous en même temps, c'est plus fun, donc ça m'a plus touché, quoi.
Moi aussi, j'ai préféré le tennis, mais c'est vrai qu'au golf, il y a un truc fun, c'est que, bon, c'était 4 joueurs, un après l'autre, mais quand tu jouais, les autres pouvaient faire du boucan avec leur menace.
Non, le jeu est bien. Le jeu Mario Golf était sympa, mais c'est vrai que c'est peut-être plus marginal, il touche peut-être moins le public qu'un Mario Tennis.
Le golf,
on a quasiment tous fait les deux jeux quand ils sont sortis à l'époque, Mario Golf et Mario Tennis. Et c'est vrai que je pense que les gens ont plus facilement accroché à Mario Tennis parce que tu peux jouer simultanément, contrairement au golf où il faut attendre. Et après, le fait que, comme tu le disais,
c'est du golf, quoi.
Voilà, le golf,
c'est de la précision, c'est de la patience.
Chez nous, ça attire peut-être moins les gens.
Et il est beaucoup plus technique aussi, quand même, parce que le golf, pour arriver à faire un birdie ou mieux,
il fallait bien jouer, quoi. Voilà. Mais les deux sont très bons jeux, mais je pense effectivement Mario Tennis a mieux marché. Pour autant, les deux sont.
Les deux, c'est des sports de bourse.
Je vous fais vite fait ma petite chronique, quand même, parce que j'avais préparé un petit quelque chose. Je voulais vous parler donc des jeux de sport décalés, donc en opposition aux simulations qu'on a de jeux de foot et autres jeux FIFA, PES et ou comme je disais tout à l'heure Virtua Tennis. Pour moi Mario Tennis est clairement un jeu de sport décalé, mais il y en a d'autres dans l'univers du jeu vidéo. Pour moi, on pourrait citer carrément tous les jeux
Mario et ses copains.
Parce que que ce soit par exemple Mario Striker, le jeu de foot, si on peut encore appeler ça un jeu de foot, qui reprend en fait un peu le système, qui reprend même complètement le système de Sega Soccer Slam, qui est en fait l'ancêtre de Mario Striker. Et bon voilà, où vous avez un jeu de foot complètement délirant avec des objets, vous pouvez vous bastonner, enfin c'est vraiment un
c'est
concept
du 3 contre 3
même c'est 3 ou t'as un peu plus 5
Soccer Slam
c'est 3
mais sur Mario t'as plus de personnages, enfin tu joues à 2 mais t'as plus de personnages dans ton équipe.
Tu joues pas les 11 joueurs du foot habituel,
tu peux jouer à 4 dans Mario Striker.
Ouais, 4. Ouais.
Et voilà, donc bon, c'est vrai que chacun des jeux adaptés de l'univers Mario dégage un charme particulier, et puis je trouve ça rend de la prise en main quasi instinctive. Je trouve qu'ils ont ça de particulier, que en général on prend le jeu, on arrive assez facilement au moins à jouer au,
ça c'est la force des jeux Nintendo, ouais, en général, ouais. Ça,
c'est vrai.
De ce côté-là, il va falloir laisser quoi. Tous les jeux un peu Nintendo estampillés, voilà, Mario et ses copains, ils ont toujours ce côté, voilà, le gameplay que t'as en deux secondes, quoi. Ouais. Même si t'as jamais joué avant, tu arrives à faire un truc.
Dans l'univers des jeux de sport décalés, moi, Mario est pas non plus tout seul. Moi, je pourrais citer, par exemple, un qui m'a particulièrement amusé et que j'ai redécouvert récemment, entre potes, notamment avec vous. C'était NBA Jam TE.
Ah, ton amélioration.
Ah, ouais.
Excellent.
Un jeu de basket, en fait, comme son nom l'indique, hein, la NBA, mais avec des bons, les personnages qui font des bons de 15 mètres.
Les Harlem Globetrotters,
ouais, quoi. C'est pire que ça, c'est de la baston, hein. C'est de la baston.
Voilà, tu te bastonnes, tu pousses, il n'y a pas d'arbitrage, en fait, quoi.
Il n'y a pas de faute.
Il y a deux fautes possibles.
Il y a deux fautes possibles, ouais. Rattraper
le goaltending et l'overclock.
Le goaltending,
ah ouais, mais il n'y a pas de lancer franc.
Non, absolument pas.
Donc voilà, c'est vraiment
le panier à 6 points.
Voilà,
points.
Le personnage qui fait un triple salto pour mettre son panier, enfin des trucs.
La balle les baskets qui change de couleur pour accélérer. Ouais.
Ou la balle qui tient on fire quand t'as marqué plusieurs fois de suite.
Ouais. Sinon, pour en citer un autre, un petit jeu, un jeu de sport comme ça, j'aurais Punch Out aussi, le jeu de boxe, quoi.
C'est vrai.
Alors là, bon voilà, ça se limite, c'est vraiment à quelques boutons, mais c'est vraiment le fun aussi à l'état pur. Bah. C'est pas de la simulation de foot de boxe.
Quand tu pousses un peu le jeu, tu te rends compte des personnages qui ont rien à voir avec la boxe, tu te rends compte sur un vieux qui a un bâton qui fait du kung-fu.
C'est
et
ça.
Et pourtant,
quoi.
Toi, tu le boxes.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est ça, c'est des personnages qui frisent la caricature, on est dans le délire
totalement
absolu.
Totalement la caricature.
C'est vraiment du grand délire, quoi. D'autres jeux, sinon, Unirally, moi, que j'avais bien aimé aussi.
Mais c'est pas tout à fait du sport, quand même.
C'est du monocycle.
Ouais, mais y a personne dessus.
Bah c'est quand même du monocycle, hein.
C'est un jeu de monocycle.
Essaye de faire avancer un monocycle sans pédaler, toi, tu vois.
Exactement.
C'est ce qui se passe, figure-toi, y a personne dessus.
Dans les autres jeux décalés, un autre qui est notable, c'est Blood Bowl, qui est adapté du jeu de plateau Blood Bowl. En fait, vous faites, c'est un mélange de heroic fantasy, de RPG et de football américain, quoi.
Ah, je croyais vraiment prisonnier, moi.
Non, c'est du football américain,
ou du rugby.
Confond avec le dodgeball.
En gros, vous avez des orques qui jouent au football américain, quoi. C'est juste le truc le plus délirant possible.
Avec les elfes qui sont
c'est
plus
énorme.
Techniques, les nains qui vont être plus résistants, etc.
Ah ouais, j'ai une question pour toi, Lionel. Tous les Wii Sports qui sont sortis, tu les mettrais dans les jeux décalés ?
Oui, c'est clairement du jeu décalé. Mais après, ça tend pas vers la simulation. On reste.
Ils mettent
un jeu délire qui exploite le mouvement de la manette, mais c'est pas de la simulation, quoi. Sinon, un autre jeu de sport décalé, où on va dire que le décalage est plus au niveau des personnages, c'est Dead or Alive Extreme
Beach Volley.
Excellent
celui-là. Le jeu est pas exceptionnel.
Oh, c'est marrant.
En comparaison, par exemple, un Beach Spiker,
oui,
va plus se rapprocher d'une simulation,
ouais,
d'un truc
mieux.
Un peu plus sérieux. Même si c'est très arcade aussi.
C'est vrai
aussi,
que c'est mieux à jouer.
Mais
moi, je préfère le Dead or Alive pour faire plaisir aux yeux.
Oui, bah c'est
voilà.
Ça. Oui,
parce qu'il n'y a que des nénettes et qu'elles
sont bien
proportionnées.
Trop net, hein,
pour résumer le jeu, ça bouge bien.
Voilà.
En apesanteur, hein.
Non, mais il y a des belles formes à regarder aussi.
Il y a une drôle de physique dans ces jeux, c'est bizarre. La gravité n'est pas la même partout.
T'aimerais que ce soit la même chez toi ou quoi?
Écoute.
Sinon, un dernier petit jeu, cher à Martin, Tiny Toons Wild Wack Sports.
Tout à fait, c'est une sorte de compétition absolument incroyable qui reprend un peu les Jeux Olympiques, mais avec du grand n'importe quoi.
Avec du grand n'importe quoi.
Des courses, du lance-poulet, du lancer des glaces, couper des arbres. C'est du grand n'importe quoi.
C'est des Tiny Toons, quoi. Ouais. Ouais, c'est du délire, du décalage.
Petit et un peu barjot aussi.
Ils reprennent le gameplay d'un track and field qui est un jeu sérieux pour les Jeux Olympiques et ils en ont fait du grand délire. Voilà.
Ouais, pour Konami.
Voilà,
voilà. Très, très on va s'arrêter là, je pense.
Ok. Le temps pour moi de vous dire que la semaine prochaine, on reviendra pour vous parler de Indiana Jones and the Fate of Atlantis sur PC. Que cette semaine, le podcast que vous pourrez retrouver sur notre forum www.forumtryagain.com, c'est Kirby's Adventure sur NES, un excellent jeu de plateforme, je vous le recommande. Qu'en attendant, eh ben, on vous fait des gros bisous. On vous dit jouez bien, à bientôt.
On se quitte avec Game Point, Breakpoint, Round 2.
Rendez-vous au Stunfest pour ceux qui le peuvent. Sinon, la semaine prochaine, toujours sur M57 dans Génération Prestart avec la première heure, Insert a New Slot, la deuxième heure, Try Again. Et voilà les amis, on vous laisse avec Scott en
vrac. C'est bon, ouh, il est dans les pommes.
Lâchez les chromis et c'est parti.
Bisous.
À plus. Ciao, 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 ciao.
Salut.
M57 Radio.
M57 Radio.
M57 Radio.
Génération Prestart.
Génération Prestart.
Game over.